Bon, de quoi allons-nous parler ce matin ? De Noël ? Pourquoi pas Noël ? Ça serait une idée originale, non ? Cela fait déjà 3 dimanches que l'on en parle et chaque année on le fait aussi. Vous en avez pas marre ? Surtout, je dois avouer que ce n'est pas évident de ne pas redire encore et encore les mêmes choses. Où est-ce à force de répéter les mêmes choses que l'on y croit et qu'elles deviennent vraies ? Non, évidemment non. C'est quoi Noël pour vous ? Mythe ou réalité ? C'est qui le Jésus de Noël pour vous ? Mythe ou réalité ? Je ne sais pas si beaucoup de nos contemporains se posent encore des questions, mais il est probable qu'ils nous en posent si nous les sollicitons, si nous les interpellons, et on leur répondra quoi ? Lisons juste un petit passage de l'évangile de Luc, donc on a lu déjà dernièrement, mais on va le relire, de Luc chapitre 2, des versets 25 à 34. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Mon premier point, c'est une erreur de calendrier. Noël 2017, anniversaire de la naissance du Christ. Donc c'est un mythe ou une réalité ? C'est vrai qu'en fait, pour être exact, on devrait être en 2022 ou 2024. Hérode le Grand, qui régnait sur la Judée au moment de la naissance de Jésus, est mort en moins 4 avant Jésus-Christ. Selon ce que les spécialistes s'accordent à dire. Ça crée un peu la pagaille, cette erreur de calcul d'un moine, qui s'appelait Denis le Petit, qui était également mathématicien et astronome, et qui est parti d'une conversion du calendrier romain pour établir, en 585, le calendrier julien, qui lui-même sera ensuite converti à un autre moment en calendrier grégorien, qui est celui qu'on a actuellement. Et bref, Kelbins, avec cette erreur corrigée, Jésus serait en fait né en moins 5 ou en moins 7 avant Jésus-Christ. C'est rigolo, non ? Est-ce un clin d'œil amusé de Dieu ? Dieu le Fils existe en effet de toute éternité, et être là avant Jésus-Christ n'est pas un paradoxe, c'est juste une réalité. Et puis très mauvais choix que le 25 décembre, qui ne correspond probablement pas du tout à l'époque de l'année pendant laquelle Jésus est né. En hiver en Israël, les bergers et leurs moutons ne sont pas dans les pâturages montagnards, mais bien au chaud, dans leur bergerie. C'est seulement en 354 que l'on aurait décidé de fixer la date anniversaire de la naissance du Christ, le jour d'une fête païenne, déjà bien installée dans les pratiques populaires de l'époque. 25 décembre, fête romaine du soleil invaincu, initialement destinée à célébrer le solstice d'hiver, ce moment de l'année où les journées commencent à rallonger. Quel micmac ! Pourquoi n'a-t-on pas d'indication plus précise dans la Bible concernant la naissance de Jésus ? C'est quand même la naissance du Sauveur de l'humanité, non ? Cela n'aurait-il pas aidé ? Date précise ? Adresse précise ? Heure, poids, taille, mystère et boule de gomme, comme dit une vieille expression. Nous sommes obligés de constater que Dieu n'a pas considéré cela utile, puisque l'information n'a pas été divulguée. Est-ce que Dieu aurait vraiment aimé qu'un lieu de pèlerinage soit établi pour vénérer la maison natale du Seigneur, avec un petit musée peut-être, et puis une boutique de souvenirs? Évidemment non. C'est le Christ lui-même qu'il faut adorer, pas sa crèche ou une quelconque de ses prétendues possessions ou lieux de passage. Est-ce que Dieu aurait aimé qu'on pense à lui, ou qu'on ne pense qu'à lui, ou plus à lui, un jour précis de l'année? Évidemment non. Christ doit être l'objet de nos pensées au quotidien, toute l'année. On a mis une affiche humoristique dans la vitrine, sur le portail, pour illustrer que Jésus est petit à petit mis à la porte de Noël. Sur l'affiche, c'est le Père Noël qui pique sa place. C'est évidemment un dessin. Mais avez-vous remarqué que des quatre personnages de l'affiche, Jésus est le seul à sembler être heureux? Comme tout bébé, il aimait certainement être plus dans les bras de sa mère que dans son lit. Mais à bien y réfléchir, avec un peu de recul, je pense que ce n'est pas vraiment sa place dans la crèche que Jésus aimerait récupérer. Ça, il s'en fiche. Une crèche que le folklore et la tradition ont d'ailleurs beaucoup modifiée ou inventée par rapport aux informations bibliques, elle-même assez réduite là encore. Il faut bien le reconnaître. Bref, c'est sa juste place dans le cœur et la vie des gens qu'il aimerait prendre, tout simplement. Non pas Jésus au centre de la crèche, non pas l'église au centre du village, mais Jésus. Jésus au centre de nos vies. Jésus au centre de nos vies. Mais pourquoi n'est-ce pas si simple pour chacun? Noël, mythe ou réalité? En parcourant un peu la littérature ou sur Internet, je ne vous apprends rien. C'est fou de voir combien Jésus est un sujet de discorde. Pas étonnant que Siméon, lui-même, ait prophétisé cela, on vient de le lire. Cet enfant deviendra un signe qui provoquera la contradiction, dit le texte. Il sera une occasion de chute ou de relèvement. La prophétie ajoute pour beaucoup en Israël, mais nous connaissons désormais la portée universelle, évidente de ces paroles. Jésus, sujet de discorde et de contradiction. J'ai lu pas mal de trucs pour préparer ce message, et bien sûr, on trouve beaucoup de stupidité sur Internet en particulier pour rejeter Jésus et nier même son existence. Mais il faut reconnaître que ce sont en général des articles plutôt mal écrits, à la logique ou à la documentation plus que douteuse. Mais c'est quand même bien malheureux et triste, parce qu'Internet est souvent la seule source d'information de nos jours pour beaucoup de nos contemporains. Mais j'ai quand même été aussi agréablement surpris d'avoir confirmation, contrairement à ce qu'on peut lire justement donc sur le net ou entendre dans les médias souvent. Il est confirmé par la quasi-totalité des historiens et scientifiques spécialistes du christianisme et de l'Antiquité, qu'ils soient eux-mêmes chrétiens ou non d'ailleurs. Bon, pour les chrétiens, ça semble plutôt évident, encore que des fois, on peut avoir de grosses surprises sur l'incohérence des croyances des certains. Mais c'est donc le cas aussi pour les historiens et spécialistes non chrétiens. Le fait que Jésus ait existé ne fait plus débat. Et l'existence historique de Jésus ne fait plus débat parmi eux, parce que pour eux, elle ne fait plus de doute. Oui, la communauté des historiens et des spécialistes confirme que Jésus a historiquement existé. C'est bien, non? Dans l'article sur le mythisme de Wikipédia, le mythisme, c'est la thèse qui a débuté au XVIIIe siècle selon laquelle l'existence historique de Jésus, justement, n'est qu'un mythe. Ceux qui y adhèrent sont appelés les mythologues. Il est écrit que la thèse de l'inexistence historique de Jésus est restée marginale au sein de la recherche historique académique et est complètement rejetée par les spécialistes universitaires du christianisme depuis la fin des années 1930. 1930. Un professeur d'histoire du christianisme à la Sorbonne disait alors que les efforts souvent érudits et ingénieux des mythologues n'ont gagné à leur thèse aucun des savants, indépendants et désintéressés, que rien n'empêcherait de s'incliner devant un fait bien établi et dont l'adhésion aurait eu du sens. Et même dans l'article sur Jésus dans l'Encyclopédia Universaliste de 2002, il est même écrit « Nul n'oserait plus de nos jours écrire une vie de Jésus comme celle qui vire le jour au XIXe siècle. L'imagination suppléait alors au silence des sources. Quant à l'entreprise inverse, quant aux thèses des mythologues, qui devant les difficultés rencontrées par l'historien ont pensé les résoudre tout en expliquant les évangiles comme un mythe solaire ou un drame sacré, purement symbolique, elle ne résiste pas à l'analyse. L'étude des évangiles permet de dire non seulement que Jésus a existé, mais encore bien plus. Et pourtant, des tas de nouvelles âneries, et je commence le mot par un A pour être poli, s'écrivent à nouveau sur le net ou dans quelques livres. C'est fou que depuis le temps, l'information ne soit pas encore arrivée à tout le monde. Et que soient encore nombreux les gens qui doutent même de cette base historique avérée. Voilà quelque chose à aviser nos contemporains quand ils nous en parlent. On peut leur dire, même quand ils ne nous en parlent pas d'ailleurs, comme quoi la société d'information et de communication n'est pas synonyme de transmission de la vérité. L'ennemi sait malheureusement aussi utiliser un ordinateur ou communiquer dans les médias, et souvent mieux que nous. Si vous voulez creuser le sujet, vous pourrez venir me voir après. J'ai trouvé une bonne adresse d'un bon site chrétien donc, qui est bien méthodique et bien documenté sur la mise en évidence de l'existence historique, en tout cas de Jésus. Mais un spécialiste ajoutait cependant, nous ne sommes plus au temps où certains s'ingéniaient à nier que Jésus eût existé. Le sens de ses faits et gestes, non son existence, fait aujourd'hui débat. Oui, Jésus a existé. La raison le confirme. Et on a à minima le droit de lui fêter son anniversaire. Mais reconnaître en lui un personnage historique ne fait pas encore de Jésus le Fils de Dieu et le Sauveur du monde, loin s'en faut. Mais c'est un début. Moi, je dis qu'il y a quand même un progrès. Mais le prochain combat, donc, le sens des faits et gestes de Jésus. Car en effet, ce que nous fêtons, ce n'est pas un anniversaire, pas juste l'anniversaire posthume d'un brave gars de l'Antiquité qui, en tout cas, c'est un événement, et quel événement ! Dieu fait homme, Dieu incarné, venu sur la terre apporter le salut, proposer le salut en tout cas, mythe ou réalité. Là encore, il y a pas mal de chemin à faire pour montrer cela à nos contemporains. Et sur ce point-là, on pourrait dire, et je le dis souvent d'ailleurs pour nous interpeller, que Dieu aurait pu, aurait dû, devrait être moins discret. Un petit peu plus d'intervention spectaculaire de sa part aiderait un peu, non ? Vous ne trouvez pas ? C'est vrai, quoi. Aujourd'hui comme hier, et surtout aujourd'hui d'ailleurs, où le scepticisme est partout, où le relativisme est partout, où la désillusion est partout, être plus visible, plus évident. Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ? Manifeste-toi plus clairement. La Bible elle-même devrait être plus évidente, plus limpide, plus accessible, plus démonstrative, plus probante. Ne serions-nous pas plus nombreux dans les églises ? Cela ne permettrait-il pas de faire taire bien des contradicteurs sur Jésus ? Les gens ne découvriraient-ils pas ? Ne suivrait-il pas Dieu plus facilement ? Ah, si Dieu faisait plus ceci ou plus cela. Si Dieu avait fait ou faisait autrement. Jean, de peu de foi, pourquoi doutez-vous ? Ouais, mais quand même, avec plus de preuves, avec plus de signes tangibles, avec ceci ou avec cela, Dieu régnerait plus. On convaincrait les gens plus facilement. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Disait Jésus dans son histoire de l'homme riche et de Lazare en Luc chapitre 16. Boum. Nous voilà calmés. Ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ce n'est pas du spectaculaire ou du surnaturel dont les gens ont besoin, et Dieu le sait, lui. Dans un autre passage, Jésus disait simplement, et on ne peut plus courtement, « Ayez foi en Dieu. »« Ayez foi en Dieu. » Marc 11, verset 22. Un philosophe au cœur particulièrement désillusionné, alors je ne sais sûrement pas bien le prononcer, Nietzsche, avec un nom bien barbare là. Nietzsche, à la fin du 20e siècle, du 19e siècle, écrivait « À vrai dire, la foi n'a pas encore réussi à déplacer de vraies montagnes, quoique cela ait été affirmé par je ne sais plus qui, mais elle s'est placée des montagnes où il n'y en a point. » La foi n'a pas encore réussi à déplacer de vraies montagnes, quoique cela ait été affirmé par je ne sais plus qui, mais elle s'est placée des montagnes où il n'y en a point. La foi enlève-t-elle les montagnes de nos chemins? Ou en rajoute-t-elle? Bonne question. Je ne partage pas sa réponse. Moi, ma conviction à moi, certes je ne suis pas philosophe, et bien content de ne pas l'être, c'est que la foi dans le Dieu vivant est vraie, la foi dans le Fils Sauveur et Seigneur, la foi dans l'Esprit qui vivifie, renouvelle et restaure et transforme, cette foi-là, je pense, ne rajoute pas de montagnes où il n'y en avait pas. C'est vrai que quant à déplacer les montagnes qu'il y a sur nos chemins, je pense que la plupart du temps, la foi sert plutôt à nous aider à les gravir qu'à les déplacer, ou à les voir à leur juste taille, à l'aune de l'éternité promise, ce qui le relativise pas mal quand même. Merci notre Dieu pour la foi que tu nous donnes. Tout philosophe qu'il était, tout érudit qu'il était, Nietzsche n'a pas su découvrir Dieu. La montagne de son pessimisme et de son scepticisme lui barrait le chemin et l'entendement. Et malheureusement, il n'a pas saisi la foi offerte pour la déplacer, la contourner ou la surpasser. Je ne sais pas ce qu'il pensait de la naissance de Jésus, mais il pensait que Dieu était mort. Que Dieu était mort, que l'idée même de Dieu était morte, que l'homme l'avait tué. Grâce à son modernisme, et que c'était une bonne chose. Une bonne chose dont seulement les générations futures profiteraient, disait-il, parce que lui, assurément, meurtrier de Dieu, se disait-il, était plutôt tourmenté, clairement pas en paix, sans joie et sans espérance. Le nihilisme de Nietzsche était la négation de tout, valeur, croyance, réalité, idéal, et en particulier l'idéal chrétien, parce qu'il n'y avait vu aucune fondation sur laquelle bâtir. Mais la fondation, c'est Jésus-Christ. On l'a chanté tout à l'heure, « Jésus est le rocher de ma vie ». Aujourd'hui, Nietzsche n'est plus, mais Dieu est toujours vivant. Qui avait raison? L'Éternel sonde tous les cœurs, et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laisse trouver par toi. L'Éternel sonde tous les cœurs, et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laisse trouver par toi. Rappelle un verset du livre des Chroniques, 1 Chronique 28, verset 9. Si tu le cherches, il se laisse trouver par toi. Accepter l'historicité de Jésus est une chose. Croire en sa divinité et son œuvre de salut en est une autre. Une autre qui demande une autre dimension, moins historienne et moins scientifique sans doute, la foi. La foi. Mais ce verset le promet, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ainsi, comme point de départ, le doute est permis, mais un doute sincère et une sincérité en recherche, prête à reconnaître s'être trompé. On a le droit de dire à Dieu, je ne crois pas que tu existes, en tout cas je ne suis pas sûr, mais si tu existes, révèle-toi à moi. Je ne pense pas que Dieu relèvera le défi, si c'est notre intention de le défier, mais je suis sûr qu'il répondra à la prière, si c'est notre intention de le chercher. Oui, votre intention, votre motivation a une grande importance. Et pour découvrir la pleine dimension de Jésus, la dimension du Christ, la dimension du Sauveur, et par là même recouvrer la relation spirituelle rompue avec Dieu, la raison ne suffit plus. Elle est utile, indispensable même, parce que le plan de salut de Dieu est totalement logique et rationnel, mais elle ne suffit plus. Pour faire le ou les derniers pas, une autre vertu est nécessaire, la foi. Même si je m'en plains régulièrement, si mon côté humain pense parfois que Dieu aurait pu faire autrement, plus explicite, comme je l'ai ironiquement évoqué tout à l'heure, cette attente par Dieu de foi de notre part est certainement une des raisons pour laquelle la Bible ne démontre pas l'existence de Dieu, mais qu'elle l'affirme, simplement. La Bible ne démontre pas l'existence de Dieu, elle l'affirme. Ça ne facilite pas mon travail, ça. Ça ne facilite pas notre travail, de témoignage en particulier. Et c'est un fait plutôt déroutant pour beaucoup de nos contemporains. Charge à nous de leur expliquer, charge à nous de leur dire combien merveilleux il est, combien il nous aime et les aime, etc., etc., de les encourager à l'ouvrir cette Bible qui leur révélera qui Dieu est et ce que Dieu fait. Oui, c'est certainement ce que Dieu attend de nous, ses enfants. C'est assurément ce que Dieu attend de son Église, moins discrète, plus évidente, plus visible, plus explicite, plus contagieuse, pour reprendre l'idée du badge de Pedro. Et alors Dieu lui-même et son message de salut seront eux aussi plus évidents, plus visibles et plus explicites. Il n'y en aura plus de raison de se plaindre. J'en aurai moins en tout cas. Si l'existence de Dieu était scientifiquement prouvée, où serait la foi? Toute langue serait obligée de confesser, tout genou serait obligé de plier. C'est prévu. La Bible nous le rappelle aussi. Mais ça sera pour plus tard. Romains 14, versets 10 à 12. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Mais pour le moment, Dieu souhaite un peuple d'adorateurs volontaires. Quelle grâce et quel privilège d'en faire partie. Oui, Dieu nous a prouvé son existence. Par la foi, Dieu nous a prouvé qu'il était vivant. Plions le genou et confessons-le. Toute une nouvelle année s'offre à nous et toute une région alentour est concernée. Et n'ayons pas peur. Il y a quand même une action surnaturelle de Dieu dans l'histoire. Tout ne dépend pas de nos petits bras musclés, comme je dis souvent. Vous ne l'avez pas remarqué dans le passage que nous avons lu avec Siméon ? C'est mentionné dans trois versets que l'on a lus. Les trois premiers versets du passage, en fait. Dans Luc 2, 25. Siméon, blablabla, l'Esprit Saint était sur lui. Blablabla. Divinement averti par le Saint-Esprit. Blablabla. Vint au temple, poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit, mais c'est bien sûr. Ce n'est pas juste un privilège pour Siméon, nous en sommes aussi bénéficiaires, nous en sommes aussi dépositaires, car évidemment ce n'est pas un scoop. Il faisait partie de l'histoire passée, il fait encore partie du tableau aujourd'hui. Dans chacune de nos vies, dans chacun de nous, elle n'est pas belle la vie ? Le Saint-Esprit nous aide à comprendre qui est Jésus. Il nous aide à comprendre ce qu'est Noël et la portée de cette venue sur terre. Il nous aide à nous en émerveiller et à chanter des louanges au Seigneur. Et il nous aidera pour briller ici où il nous a placés et à être bien contagieux. Jésus, salut pour tous les peuples et lumière pour éclairer les nations. Et les porteurs de lumière, dans bien des cas, eh bien c'est nous. On peut là encore se demander si Dieu a fait le meilleur choix, le choix de l'efficacité et de la performance. Mais il faudrait peut-être que l'on arrête de se regarder le nombril et de se poser ce genre de questions, non ? Et que l'on regarde à lui. Pourquoi s'inquiéter ? Gens de peu de foi, pourquoi doutez-vous ? Ah, cette fameuse foi qui nous fait souvent défaut. N'est-il pas l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ? Bien sûr, il l'est. Alors, Noël, mythe ou réalité ? Seigneur, on s'accroche souvent au folklore de cette crèche, de Noël, de tout ce qui a pu être rajouté au fil des années et des siècles. Et on a parfois du mal nous-mêmes à faire la part des choses entre le mythe et la réalité. Donne-nous de te voir, toi, tout simplement. Toi, source de salut. Toi, Dieu incarné. Je me réjouis de ce que même les scientifiques reconnaissent que tu as historiquement vécu. Mais change encore les cœurs. Interviens encore par ton Saint-Esprit qui peut modifier, changer des vies pour faire comprendre que tu as aussi divinement existé, que tu es divinement existant et vivant. Cette dimension qui est tellement extraordinaire, cette dimension que pourtant nous avons parfois du mal à vivre pour nous-mêmes, ou en tout cas à expliquer aux autres aussi, révèle-la nous toujours davantage, aide-nous toujours davantage à la comprendre et à nous en émerveiller, et nous réjouir de la grâce que tu nous as fait de nous faire comprendre, accepter cela par la foi, de nous avoir invités dans ta famille, de nous avoir adoptés comme tes enfants. Quelle grâce et quel privilège! Mais il y a encore plein de place, il y a encore plein de place pour le banquet à venir avec toi. Et tu veux que nous invitions encore beaucoup de gens. Nos voisins, nos amis, nos collègues, les membres de nos familles, etc., etc. Aide-nous, Seigneur, à briller, même si souvent nous brillons d'une manière bien vacillante, à interpeller nos contemporains, à leur faire connaître qui tu es, à les inviter à ouvrir cette Bible où tu te révèles. Elle ne démontre rien, mais clairement, elle convainc, elle parle, elle explique qui tu es. D'autant plus que maintenant, la plupart des gens n'ont soit pas d'idées du tout te concernant, soit des idées fausses. Nous te prions, Seigneur, pour notre ville, notre région, notre monde, pour que ce ne soit pas juste une vieille histoire poussiéreuse, ce Noël, mais vraiment encore une réalité au quotidien, pour nos vies et pour les vies de nombreuses personnes. Que nous puissions nous réjouir vraiment de ce que tu es vivant et le proclamer. À toi toute la gloire et merci encore pour Noël, pour ce temps particulier où nous voulons nous réjouir de ta venue sur terre pour résoudre le problème du péché, pour résoudre et rétablir la communion et la communication, la relation entre toi et l'humanité. Merci pour toutes tes grâces encore. En Jésus. Amen.